Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Il m'est resté 5 potes. J'ai remonté des business, ils ont cru en moi alors que j'étais au fond du seau. Ils me soutiennent. Dès que j'expose un projet, ils sont à fond.
Pour moi, s'acharner au quotidien, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Tu te tues à la tâche finalement, comme si tu étais salarié en fait.
Quand tu tentes dans l'entrepreneuriat, on pense tout de suite à liberté, je vais faire mes horaires quand je veux et tout. Mais non, au début, t'es là, t'as 8 heures, t'as des yeux comme ça.
Tellement.
Tu finis à minuit, t'as les yeux comme ça.
T'es obligé de t'entraîner là-dedans et de te serrer les coudes pour te dire, ok, en fait, on va s'en sortir. Bien évidemment, la moitié ne s'en sortent pas parce que c'est un mindset d'être indépendant.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver sur BFM Business dans le dernier épisode de la saison 3 du podcast des indépendants. Et pour cet épisode, je voulais faire les choses un peu différemment. Alors vous allez le voir, j'ai 4 super invités. On va aborder des sujets variés qui vous concernent forcément en tant qu'indépendant. Je laisse Ombline, notre voix off, vous les présenter.
Nicolas Waldorf, coiffeur indépendant qui s'est fait connaître sur M6 dans l'émission Incroyable Transformation. En plus de diriger son salon à Paris, Nicolas a créé le Club Nicolas Waldorf pour conseiller, relancer, accompagner les salons indépendants partout en France. Plus qu'un business, une vocation pour soutenir le commerce de proximité. Deuxième invité, Mini Majesté. Ingénieur informatique pendant plus de 10 ans, Mini Majesté est aujourd'hui drag queen. Connue et reconnue notamment après avoir porté la flamme olympique, elle vit désormais uniquement de cette activité. Son business se compose de 80% d'événementiel et de 20% d'interventions dans les entreprises. Troisième invité, Joël Dagosseri, coach, conférencière et journaliste. Joël a rejoint les GG sur RMC il y a près de 10 ans. Indépendante, après 20 ans en tant que salariée, elle accompagne aujourd'hui les chefs d'entreprise et managers sur les questions de confiance en soi. Quatrième et dernière invitée de la saison 3 du podcast des indépendants sur BFM Business, Loubna Tigroussine, juriste RH indépendant qui entend casser les codes du travail pour le rendre lisible pour tous. Avec 76 000 abonnés sur LinkedIn, Loubna a développé une communauté très engagée autour de ce contenu. Hier salariée, aujourd'hui à son compte, elle intervient dans les entreprises en tant que formatrice en droit du travail et consultante RH.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là pour la dernière de la saison 3 du podcast des indépendants. Et s'il y a une chose qui vous réunit tous, c'est la notion de passion. Parce qu'ici, on a des anciens salariés qui ont quitté la sécurité. Vous êtes 3 pour monter leur activité. Et la meilleure illustration, c'est toi, Minima, qui étais ingénieur informatique avant de devenir cette drag queen.
Absolument, c'est le cas. Enfin, j'étais les deux pendant pas mal d'années et je considère encore que je suis ingénieur. Ingénieur un jour, ingénieur toujours, parce que ça m'a quand même beaucoup appris à travailler avant de faire de ma passion mon métier actuel.
Et d'ailleurs, tu le dis, c'est un business, hein. Tu dis, c'est un métier.
Ah mais oui, je suis une marque, enfin, Minima Majesté. Là, si j'apparais aussi en drag et pas en civil, c'est parce que je me représente moi-même. C'est mon image que je représente à travers mon métier, à travers ma marque.
Je le précise parce qu'on peut se dire, voilà, c'est un hobby, c'est une activité artistique. Et en réalité, si t'es ici, si t'es sur BFM Business, c'est parce que t'en fais une activité avec laquelle tu vis aujourd'hui, alors qu'hier, t'étais, je l'ai dit, ingénieur informatique.
Absolument. Mon activité préférée dans la vie, c'est payer mon loyer.
Ouais, c'est payer nos impôts.
Exactement.
Oui, les impôts. Les impôts. Ça, pas adore, que hein. Le loyer. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? On est filmé là.
Et donc, en fait, pour ça, faire un business, effectivement, c'est une passion à la base, le drag. C'est un métier artistique. Mais j'en ai fait mon business, ma marque et tout ce qui va avec.
Et on a avec nous aussi Nicolas. Alors, toi, tu as toujours été entrepreneur.
Ah non, 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 non. Ça fait 24 ans que je suis coiffeur. J'ai commencé apprenti, j'ai évolué et j'ai travaillé mon dernier poste d'employé, c'était dans un gros groupe de salons.
Donc, toi aussi, tu étais salarié avant.
Ah, ben, j'ai pas commencé. Je me suis pas dit à 16 ans, allez hop, je monte. Bah,
attends, Nico, moi, j'étais entrepreneur dès 15 ans. Hein.
Ah bon?
J'ai jamais été salarié. Hein.
Quand t'es coiffeur, il faut quand même se faire un peu la main. Et, ouais. Et puis, du coup, il fallait que j'apprenne à manager et tout ça. Et après, j'ai monté ma boîte. Bah, à un moment donné, oui, je me suis dit, c'est le moment. Le plus important, je pense, quand tu crées ta marque ou ton entreprise, c'est de s'entourer d'amis qui croient en toi plus que toi. Tu vois, j'avais des gens dans la pub, la créa, la com, et c'est comme ça que ça a commencé à créer mon image. Et c'était très important à l'époque. Moi, j'y connaissais rien. Et en fait, je me suis aperçu que ça t'ouvre quand même les portes.
Ouais. Joël, toi, t'as été 20 ans salarié avant de monter ton activité.
J'ai été 20 ans salarié parce que tout simplement, voilà, c'était un parcours classique. Hein, tu vas à l'école, on te dit tu travailles bien pour avoir un bon travail, tu suis un peu le mouvement. Et puis après, au bout d'un certain temps, je me suis sentie un petit peu étriquée, on va dire, dans ma personnalité, dans tout ce que j'avais envie. Voilà, je suis partie il y a presque 5 ans maintenant.
Je le dis, je je le souligne parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui hésitent à quitter un CDI dans lequel ils ne sont pas bien pour lancer leur activité.
Alors, ouais. Tout le monde n'est pas fait,
oui, fait pour l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Là, il faut l'accepter quand même.
Non, mais il y en a qui hésitent, c'est-à-dire qu'ils ont quand même cette appétence, ils ont cet intérêt, ils n'osent pas.
Aujourd'hui, c'est quand même, il faut avoir les nerfs quand même.
Bien accrochés.
Bien accrochés. Il faut quand même se dire, on traverse des choses. Il y a énormément de belles choses parce qu'enfin, on choisit son temps de travail, les gens avec qui on travaille, on a le choix sur plein de choses. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides. Ouais. Il y a des moments où on gagne, et on gagne beaucoup. Il y a des moments où on peut perdre énormément. Et je pense qu'il faut être préparé à ça. Moi, avant, j'entendais beaucoup d'entrepreneurs quand j'étais employé qui disaient « Oh là, j'ai tout arrêté, j'en avais marre, les employés, l'URSSAF, le machin. » Et je disais « Oui, mais c'est parce qu'il a mal, il a mal géré, ou il est un peu stressé. » Et au final, tu t'aperçois que tu traverses des turbulences assez hard hein, quand même.
Et au final, c'est compliqué. Et tu disais, Lumna, quand on a préparé cette émission, c'est vrai que c'est un saut dans le vide. Quand tu es en CDI, c'est vraiment un saut dans le vide. Il faut, tu sais pas où tu mets les pieds et tu découvres chaque jour le fonctionnement d'une entreprise.
Mais en fait, quand tu as été dans une logique salariée pendant plusieurs années, tu es quand même dans un cadre qui est très confortable, où il y a une stabilité qui est quand même intéressante. Ouais. Et puis, personne ne t'apprend vraiment à devenir entrepreneur. Pour mon cas, moi, je me sentais vraiment très créative. Et ce cadre-là, justement, il empêchait ma créativité d'exploser. Et donc, le jour où je me suis mise à mon compte, c'était une grosse claque. Parce que je pensais que j'allais avoir une logique salariée où j'allais commencer à travailler le matin à 9h tranquillement. Mais en fait, pas du tout. J'avais des horaires interminables. Et personne n'est venu me dire « Ah, l'entrepreneuriat, c'est pas ça, en fait. » C'était plutôt ça. Mais tu l'apprends sur le terrain avec des claques.
Il y a quelque chose qu'on apprend sur le terrain, c'est la gestion. Et toi, Nicolas, sur la partie gestion, tu l'as appris à tes dépens.
Alors, bon, moi, déjà, j'ai un truc. Pour moi, un grand entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait... Je ne me mets pas dedans parce que j'en suis pas encore un grand, mais c'est quelqu'un qui sait s'entourer des gens qui vont gérer ses points faibles. Il faut faire le bilan de ses points forts et de ses points faibles. Moi, tout ce qui était gestion, le courrier, les factures, les machins, je ne voulais pas parce que ça me... Moi, si je voyais une facture le matin, après, je ne pouvais plus coiffer. Enfin, j'étais là, oh là là, mon Dieu, l'horreur. Je me suis un peu entouré de gens qui géraient mes points faibles. Sauf que quand on délègue un peu trop, ça peut se retourner contre soi.
Oui, déléguer, ça ne veut pas dire négliger, quoi. Faut choisir effectivement les bonnes personnes, et ça, c'est un sujet.
Bah après, moi, je sais pas, je suis un artiste, j'ai toujours... Il y a certaines choses que je néglige, hein.
Ouais.
Parce que ça me perturbe, je veux pas, j'ai une phobie un peu administrative, je sais pas pour vous, mais...
Raconte-nous le jour où t'appelles ton comptable et tu lui demandes, il est où l'argent ?
Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a eu... voilà, j'ai monté ma première boîte en 2014, un vendredi 13, je m'en souviendrai toute ma vie. Et en gros, j'ai monté la deuxième 3 ans après, puis ça grandissait, j'ai été repéré par la télé, j'ai gagné un concours de coiffure il y a 10 ans. On me proposait des shows, je disais non. Et au final, à un moment, il y a eu le show d'Incroyable Transformation. L'argent rentrait, tout était flouté parce que ça, je voyais pas les dépenses, il y avait énormément de cash qui rentrait.
Mais pourquoi tout était flouté
Parce qu'en fait, toutes mes sociétés étaient sur la même. Moi, ça me permettait de réemprunter. Je me disais, bon, bah ok, machin. Et au final, vu qu'il y avait un resto, un salon, un machin, de la déco, enfin, il y avait plein de choses d'activités différentes, plus la télé qui rentrait tout le temps.
C'était pas clair, c'était le bordel.
En fait. C'était un groupe, mais
j'avais pas séparé les trucs. Donc, je voyais les comptes qui étaient pleins, je faisais pas trop gaffe. Et au final, un jour, la télé s'arrête. Et quand la télé s'arrête, au bout d'un mois, je fais mais pourquoi je suis à découvert? Et là, j'appelle le comptable, je dis mais il est où l'argent? Et en fait, il me dit ben non, mais en fait, ce qui rentabilisait toutes tes activités, c'était la télé. Tu faisais des grosses rentrées d'argent. Et je dis mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et il m'a dit ben je t'ai dit oh là là, heureusement qu'il y a la télé. J'ai dit mais il y a une différence entre heureusement qu'il y a la télé et Kono, tu fais faillite.
Et là, tu mets le doigt sur un point hyper important, c'est savoir s'entourer du bon comptable. Le comptable, il n'est pas juste là pour faire un bilan, il est là pour ART, pour donner des conseils et pour être vraiment un partenaire.
Je pense que le comptable, il m'aimait bien, il voulait pas me vexer ou me mettre mal à l'aise et il pensait que c'était inépuisable et que ça n'allait jamais s'arrêter. Ouais. Sauf que quand vous avez une annulation de saison, on vous annule un contrat, vous aviez signé un contrat de tant, dizaines ou centaines de milliers d'euros et là d'un coup ça s'enlève de votre prévisionnel. Ouais. Je venais de réinvestir, de réinjecter, d'acheter un nouveau lieu, de machin. Je vous raconte pas, quand tu te retrouves avec, je sais pas moi, 100, 200 000 euros dehors, va rattraper le bordel after Covid. C'est mort. Je savais même plus où donner la tête.
Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est un peu les aléas. Et tu me disais, Joël, en préparant l'émission, tu me dis, c'est vrai que tu es habitué à être payé le 28 et là ça fait bizarre. En fait, parce qu'on ne sait jamais trop quand on va être payé. Et des fois, on a le compte en banque qui est blindé. Des fois, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, il faut savoir anticiper et pas s'exciter quand on a de l'argent.
Moi, je pense que ça m'a pris au moins 2 ans de calmer mes émotions liées aux rentrées et aux sorties d'argent, au côté aléatoire. Enfin, c'était un truc de fou parce que, bah oui, t'es salarié, toi, tous les 28, ça tombe. Tes factures sont payées le 5 ou plus tard. Enfin, tu vois, il y a un truc, une sorte, t'es rodé, en fait, ça tourne et tout, etc. Puis tu passes entrepreneur. Dans les premiers mois, tu te dis, mais alors, Attends, ça rentre quand là? Ça rentre quand? Parce qu'on est le 25.
Non, mais en plus, t'es habitué à avoir des petites sommes de ton salaire et après, tu reçois le double, voire le triple.
Ouais, c'est ça.
Et t'as une, tu te dis, ça y est, j'ai de l'argent. Alors que pas du tout.
Mais pas du tout.
À la fin, il y a
c'est un truc de... Et on disait d'ailleurs, c'est vrai que on a du mal à se confronter aux chiffres parce que quand on est entrepreneur, les chiffres dans la réalité, c'est hyper stressant. Quand tu déduis les cotisations, quand tu es factuel, et toi, Minima, pour le coup, tu es vraiment gestionnaire, tu as tes tableurs Excel, etc. C'est ce que tu me disais. Mais c'est vrai que c'est psychologiquement assez violent, en fait, de voir la réalité en face, surtout en France, où franchement, les entrepreneurs sont ultra ponctionnés.
C'est vraiment nécessaire. Moi, je sais qu'avant de me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, j'avais fait 14 tableaux Excel pour vérifier un maximum. J'avais acheté tous les auto-entrepreneurs pour les nuls, tout ça, pour avoir genre, le maximum d'idées globales de ce que je serais ponctionné. Et donc, si j'arrivais pas à trop bosser et que j'avais à minima que 3 ou 4 bookings par mois, est-ce que j'arriverais à faire mon activité préférée de ma vie, à savoir payer mon loyer? Si la réponse était oui, je me suis dit, bah, let's go, c'est parti. Là, je me lance. Mais sinon, non. Et je préfère avoir des bonnes surprises. Je préfère être pessimiste, voir le verre à moitié vide et après avoir des bonnes surprises à la fin de l'année, même si pendant tout un an, bah, ça te complique un petit peu la vie, ne serait-ce que, comme tu dis, bah, pareil, les premières années, arriver à pas me réjouir d'avoir plein d'argent qui d'un coup rentre parce que t'as signé un gros contrat, ça arrive, et te dire, mais en fait, cet argent, il est pas à moi pendant ce temps.
C'est ça le truc. Hein.
La première année, je crois que t'es quand même. Moi, je me rappelle que la première année, j'avais des aides, j'avais l'acre. Enfin, il y avait
Parce que j'étais jeune à l'époque.
Tu payais moins de cotisations. Ouais.
Tu payais moins de cotisations. Je me rappelle, au début, j'ai commencé, on était trois dans un petit salon et tout. J'avais jamais été aussi à l'aise. On faisait de l'argent et tout ça. Alors, je sais pas, j'ai pas trop analysé tout ce qui a augmenté et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu vas créer encore plus d'emplois. Tu vas créer des concepts pour que les gens soient heureux. J'avais des boutiques dans la même rue. Je développais. Et je me disais, ça va être pareil. Je demandais pas la lune. Je voulais pas gagner trois fois plus. Mais je montais quand même des business en me disant, bon, bah, allez, les gens, ils vont être contents. On va monter un petit parti restauration. Et en fait, plus je grossissais, plus c'était la loose.
Plus la gestion est difficile.
En fait,
il y a plus de frais que de.
Mais là, par exemple, j'ai un beau salon de coiffure, machin, tout ça. J'ai dû virer quelqu'un récemment parce qu'en fait, bah, si tu as envie de bien payer les gens, d'être honnête, de faire les choses bien et tout ça, c'est mort. Hein. Ça, tu tombes à zéro et tu ne peux pas être staffé comme tu voudrais. Tu vois. Donc, on est en flux tendu, en sous-effectif pour pouvoir être rentable. Quoi.
Et il y a un sujet qui est aussi très intéressant. Il y a la partie gestion. Oui, Joël, tu voulais réagir.
Non, juste sur le prévisionnel parce que tu vois, elle a fait un tableur Excel. Alors
800
moi...
tableurs Excel, apparemment.
J'ai un téléphone qui s'ouvre pour une raison, hein, pour pouvoir regarder mes tableaux Excel plus facilement.
Ah, ouais.
Alors que moi, je me suis jetée, mais sans rien. Non, parce qu'en fait, je me suis dit, si tu fais des tableaux, parce que j'avais un peu une idée, enfin, je connais un peu la bureaucratie française, des impôts, j'ai dit, ça va te décourager, tes salariés, surtout, ferme les yeux et plonge. C'est ce que j'ai fait, tu vois.
C'est pire.
Le pire, c'est que vite fait, tu te dis, bon, l'URSSAF, moi, quand j'ai commencé, c'était à peu près 22%. Tu vois.
Là, on est à 26.
On est à 26. Tu te dis, mais attends, mais ça va aller jusqu'où?
Ça monte non-stop.
Les loyers augmentent, les fournisseurs augmentent parce qu'ils suivent tous le mouvement et du coup on se retrouve mais acculé quoi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux visions. Minima qui s'est éduquée quand même à gérer, c'est-à-dire que personnellement moi j'ai pas été prendre des livres savoir quel était le mindset de l'entrepreneur, comment gérer sa boîte, et je trouve ça intéressant parce qu'on a deux visions différentes et je trouve qu'il y en a une qui est quand même gagnante, c'est celle où tu t'éduques à la finance, à la gestion de ton entreprise, à l'entrepreneuriat de manière générale pour pas sauter dans le grand bain. Et je pense qu'on est peut-être 90% à sauter dans le grand bain.
C'est éducation qu'on n'a jamais eue. À l'école.
Non, à l'école, on ne nous l'apprend pas.
Non,
arrêté sur ta chaise. Alors, tu vois. Mais il y a aussi un truc, c'est que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour moi, l'entrepreneuriat, il faut avoir quand même une sacrée dose d'inconscience pour se lancer. Parce que si on était conscient de tout, moi, est-ce que je me serais lancé si j'avais été conscient de tout ce que j'avais traversé? Je ne sais pas.
Est-ce que c'est un fond? C'est juste passion.
Alors, tu vois, sauter sans élastique à l'élastique.
Mais
toi, je pense que tu es d'accord.
La passion du risque, tu vois, la passion de ce qu'on fait, la passion de vouloir faire plus sans prise de connaissance. Tu vois, tout est question de balance, genre peser le pour et le contre. Et en fait, tu réfléchis pas au contre parce que le pour est tellement intéressant et te nourrit tellement.
Non, je pense que c'est vraiment. C'est qu'on n'a pas envie de se confronter à ces chiffres, à cette réalité. Ouais. En fait, les cotisations, etc., c'est un peu comme si te ramener dans un état de salarié. C'est-à-dire qu'on te rappelle qu'il y a un cadre.
Exactement.
Et t'as pas envie de ce cadre, en fait. Ouais. Et donc, ça, c'est stressant.
Pour moi, je pense vraiment qu'au début, j'avais un rêve, tu vois.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais le rêve de, comme les coiffeurs s'épanouissent, qu'ils soient bien payés, qu'ils ne se fassent pas arnaquer comme moi, je l'avais été, qu'on apprenne dans des bonnes conditions, qu'on ait un cadre de vie, que les clients soient contents de venir. Je voulais un train de vie différent pour les coiffeurs. Je voulais que ça évolue. Je voulais changer les choses. J'étais inconscient. Si, enfin, tu vois, si j'avais vraiment su tout ça, j'ai des potes, ils ont des gros jobs dans des gros groupes de coiffeurs ou de trucs, où ils sont coiffeurs en privé ou machin. Bon, mais je peux te dire que ils sont tranquilles. Hein.
Ah ouais. Ils sont en week-end, vraiment en week-end le vendredi, quoi.
Ah ben même le jeudi, hein.
Ouais.
Et ils comptent pas, ils vont pas se coucher le soir en se disant punaise, comment je vais faire pour payer les primes.
C'est super gratifiant parce que tu es en train d'évoquer l'essence même de l'entrepreneur. Tu as envie de changer les choses, tu as envie de casser les codes, tu as envie de faire les choses à ta manière, de rendre ce monde un peu meilleur malgré les difficultés.
Ah oui.
C'est vrai qu'il y a une passion quand même et tu te poses la question, c'est est-ce que je perds plus à ne pas sauter ou à sauter. Il faut se dire qu'est-ce que je perds, en fait. Et je pense que moi, personnellement, je préférais sauter et perdre un peu en gestion. Tant pis, c'est pas grave, mais je ne referais pas marche arrière. Donc, en fait, c'est cette question-là qu'il faut plutôt se poser.
C'est le sens.
Voilà, le sens, il est très important et c'est ce qui te permet d'avoir une vision claire pour aller jusqu'au bout des choses. Les opérations, clairement, ça va venir à un moment, mais je pense que la meilleure des choses, évidemment, c'est de les intégrer dès le départ. Mais si tu ne les as pas, vas-y, saute et tu verras.
Il y a un autre sujet sur lequel je voulais qu'on aille parce que vous rejoignez tous les quatre là-dessus, c'est que la visibilité ne veut pas dire chiffre d'affaires. Non, mais il y a un peu cette idée-là, la personne est visible, etc. Et on parle beaucoup de personal branding. Ouais. Alors, il suffit que tu aies beaucoup de likes sur Instagram ou sur LinkedIn pour qu'on s'imagine que ton activité est successful. Il suffit que tu sois sur M6 pour qu'on s'imagine que tu es extrêmement... que tu as beaucoup d'argent. Alors, il suffit que tu passes dans les grandes gueules pour qu'on se dise que tu as beaucoup d'argent et il suffit que tu sois très visible sur les réseaux avec en drag pour qu'on se dise, forcément, c'est successful. Et c'est pas ça le business, en fait. Non.
Quand je suis arrivé d'M6, que j'ai arrêté M6, je regarde les comptes et je dis, mais où est l'argent? Et là, j'épluche tous mes fournisseurs. Ils avaient tous doublé. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a augmenté les factures? Et j'appelais, on me disait, ah non, mais vous êtes un bon client, vous êtes un gros client, vous êtes un machin. J'avais des primes de perte, de ci, de... Mais on m'arnaquait parce que c'était moi. Le bailleur a vu que c'était moi, mon nom sur la porte. Mmh. Il a cassé le bail pour augmenter le loyer. En fait, tout le monde pensait que j'étais millionnaire. La télé m'a desservi. C'est-à-dire que vu qu'on pensait que c'était Nicolas Waldorf, et même maintenant, quand je parle de difficultés ou quoi, les gens, ils tombent de leur chaise. Ils disent, mais Nicolas. Et tu sais, même quand ça allait mal, je t'en ai parlé l'autre jour, quand ça allait mal, on me disait, Nicolas, ça va? Je faisais, oh là là, en ce moment, c'est... Oh, attends, tu vas pas te plaindre. Hein. Oh, ouais. T'es tous les jours sur M6, t'as ci, t'as ça, ta maison, nanana. Mais en fait, même quand j'avais monté, j'étais au Festival de Cannes. Mais là, on en parle.
Oui, c'est anecdote.
J'étais au Festival de Cannes, j'avais la traîne à je sais pas combien de milliers d'euros, nanana, j'étais là en train de monter. Ma carte bleue ne passait plus. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas me payer un sandwich. J'étais sur les marches. On m'avait jamais autant félicité de ma vie pour ma réussite, ce que j'avais changé dans le monde. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et je ne pouvais même pas me payer un sandwich. Et ça, je me suis dit, mais quelle horreur, quoi. Quelle hypocrisie.
C'est de dire que médiatiquement, en fait, c'est pas forcément... C'est pas la réalité.
Non, c'est pas la réalité. Et surtout, si t'es... Parce que moi, j'ai vraiment vécu ça comme ça. C'est-à-dire que je faisais de la télé déjà depuis 6 ans, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. J'ai bien vu qu'en fait, la visibilité, ça ne te fait rien. Il faut vraiment travailler ton personal branding, travailler ta communication. Parce qu'en fait,
c'est un accélérateur, c'est tout.
Nicolas, il avait... Enfin, je pense peut-être que tu avais la chance de faire à la télé ce que tu faisais dans la vie. C'est-à-dire que télé,
t'es cohérent.
Moi, c'est complètement différent parce qu'à la télé, je parle de politique ou de société ou des choses comme ça. Et dans la vie, je fais du coaching. Et donc, les gens qui me connaissent à la télé, ils connaissent mon métier dans la vie, mais je veux dire, je suis pas reconnue pour ça, pour le coaching, pour être un bon coach.
Mais il y a quand même un lien.
Il y a un lien, mais quand même.
Mais c'est comme moi avec le podcast des indépendants. À un moment, ça a desservi mon entreprise de poser la vidéo, tu vois, parce que beaucoup d'énergie mise dans le programme et pas assez dans l'entreprise. Ouais. Et les gens m'identifient pas comme un chef d'entreprise, ils m'identifient comme un journaliste, ce que je ne suis pas. Je suis un entrepreneur, je ne suis pas salarié de BFM. J'ai ma boîte de prod à côté.
Et c'est pas un vrai journaliste. Oh, bah moi,
qu'est-ce qu'on fait là?
Ça
a toutes les qualités pour, en tout cas.
Pour le coup, c'est la passion. Là, c'est vraiment la passion qui parle. Et donc ça, c'est vrai que ça a été un piège à un moment, parce que tout le monde te dit « Waouh, trop bien, Ludo, il arrive à atteindre son objectif, alors qu'il n'est pas journaliste, etc. Il n'a pas fait d'études. » Et dans les faits, l'entreprise Oser la Vidéo, on a pâti en termes de chiffre d'affaires. On a vraiment chuté parce que Ludo n'était plus là et les clients se disaient « Mais attends, mais il est complètement focus sur BFM. » Et donc, il est plus disponible.
quoi. C'est tout à fait normal parce que les réseaux sociaux ont renforcé les biais. En fait, on a des biais et les personnes qui nous suivent sur les réseaux sont biaisées par notre visibilité. Mmh. Il y avait sur LinkedIn la trend de le SMIC LinkedIn à 10 000 euros. Ouais. 10 000 euros, c'est très facile à atteindre. Mais 10 000 euros, est-ce que c'est 10 000 euros dans ta poche ou est-ce que c'est 10 000 euros juste de chiffre d'affaires avec toutes les cotisations, l'URSSAF, etc. qui passent.
C'est illusoire.
Et ça, ça renforce les biais et c'est destructeur pour les personnes qui manquent de confiance en elles, qui pensent que oui, mais si lui, il arrive à avoir 10 000 euros par mois, pourquoi moi, j'ai que 5 000, pourquoi j'ai que 2 000
Et c'est très mal.
Émotionnellement, il faut tenir le choc aussi, vraiment émotionnellement, parce que tu es biaisé parce que les gens te montrent. Ouais. Et les gens te montrent des choses et tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. Donc, tu peux être très visible. J'ai rencontré des personnes qui sont très visibles sur LinkedIn avec des milliers, des centaines de milliers d'abonnés.
Et qui ne monétisent pas.
Qui m'ont dit qu'ils étaient encore, qui bénéficiaient encore de leur chômage parce qu'ils n'arrivaient pas à générer de chiffre d'affaires. Alors qui me disaient, tu sais, ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas du tout ce que ma vie, en fait. Voilà,
minima.
Mais ça, en plus, on le voit déjà. Et moi, je sais que dans mon corps de métier de drague, où il faut être la plus glam possible, la plus paillette possible, le nombre de dragues que je connaisse qui dorment par terre sur un tapis de yoga, mais qui, à l'extérieur, sont obligés de se payer des robes à 1500 balles de couturier parce que sinon, ben, tu te fais plus booker si t'es juste habillé avec une petite robe H&M, alors que bon, ce sont des très belles robes, mais c'est même pas le sujet. Mais le paraître, et surtout dans un métier où moi, c'est vraiment mon corps que je mets en avant, mon personnage, comment je m'habille, à quoi je ressemble, il faut que ce soit le plus glam, enfin le plus possible.
Et là, déjà, ça coûte cher, et là, pour le coup, t'es complètement dans l'illusoire. Mais après, ça fait partie du spectacle.
Mais ça fait aussi partie du spectacle. Mais moi, je rappelle, enfin, je m'évertue à rappeler pourquoi je fais tel événement, pourquoi je vais porter telle tenue, quels sont les coûts que je vais mettre dedans, et que le but, c'est de payer son loyer.
Ça, on a compris. C'est pragmatique. C'est vrai, on peut pas être que dans un rapport à la passion, quoi.
C'est ça. Mais c'est important de l'être en tant qu'entrepreneur. Il faut quand même avoir, comme tu disais, un petit peu son inconscience, un petit peu sa passion, mais un petit peu raisonner. Genre sauter dans le vide, mais avec un demi-élastique.
Mais un demi. Il faut y penser avant d'avoir sauté.
Mais la passion, c'est ce qui t'aide à tenir dans les moments down, parce que c'est les montagnes russes en termes d'émotions, l'entrepreneuriat.
Il y a une chose que j'ai apprise là récemment. J'ai commencé avec un rêve, et puis ensuite, on évolue. On grandit. Et on évolue très vite par rapport à ce qu'on traverse et tout ça. Et il y a un moment où, vu qu'on est attaché à sa survie ou à la survie de sa boîte ou de son image de marque ou tout ce qu'on veut, on en oublie un petit peu cette évolution, ce léger changement. Et depuis très peu de temps, j'ai commencé à faire évoluer ma boîte en fonction de moi, de ma vie, de ce que je voulais. Et là, ça a commencé à être marrant. Là, ça a commencé à être le kiff. J'évoluais en fonction de ce que me disaient les gens, en fonction de ce qu'on pensait de moi, en fonction de mon image. Je travaillais avec ma sœur est mon agent / manager / elle gère toutes les crises et tout ça, et c'est mon associé. Elle est venue me rejoindre parce qu'à un moment, je lui ai dit, si tu viens pas, je vide les comptes, je pars avec mon sac à dos et je pars à l'étranger, tu me verras plus jamais. Tu sais, moi j'ai eu un moment comme ça où je savais que mon loyer n'était pas payé, je savais pas si j'allais garder ma maison. Et je me suis couché un soir et j'ai dit, ah non, j'ai dit c'est pas possible, j'ai pas signé pour ça. Et en plus, tout le monde me disait, mais non, t'es génial. Horrible. Peux rien dire, il y a des moments où tu peux pas en parler, enfin tu vois, t'es en pleine promotion, tu peux pas dire tout ça, tu vois, et puis tu peux pas dire, ah ben voilà, on m'a lâché, je tourne plus alors qu'on m'avait dit que je tournais, enfin tu vois, tu peux pas critiquer ta chaîne, mais sauf que la télé, c'est comme ça.
Oui.
Enfin, faut quand même le dire.
C'est un monde à part.
C'est un jour, t'es la resta, le lendemain, t'es blacklisté, le surlendemain, on te rappelle parce qu'on est en galère, c'est comme ça. Et en plus, c'est des métiers où la place est chère, où tout le monde la veut, où tout le monde te tarabuse, enfin, tu vois, c'est compliqué. Et au final, je me suis retourné vers ma sœur, et là, tu vois, on a monté le club.
Le club Nicolas Waldorf. Qui est d'ailleurs issu, cette idée, c'est parce que t'as vécu ce que t'as vécu.
En gros, le club Nicolas Waldorf, on accompagne des indépendants, donc ça peut être dans la beauté. Enfin, là, on fait beaucoup d'esthéticiennes, de coiffeurs, mais on essaye de s'attaquer aussi à d'autres. En fait, on s'est aperçu en descendant en province, en rencontrant dans les communes, les maires et les entrepreneurs, on s'est aperçu que depuis le Covid, vu que les gens ont changé de consommation, ils se retrouvent, ils sont complètement perdus et tout ça. Et donc, on s'est associé avec Rémi Bureau, un homme qui a monté beaucoup de groupes de salons de coiffure. Et on a dit, on va aider les entrepreneurs parce qu'ils sont ni formés en marketing, ni formés en compta. Ils ne savent pas du tout s'en sortir. Ils ne savent pas comment développer de nouvelles techniques pour appâter un peu les clients ou quoi. Et donc, les cœurs de ville meurent. Parce qu'en plus, ce qu'on vit,
nous, on est dans une petite bulle et tout ça, machin, il y a quand même un peu plus de moyens et tout ça. Mais alors, je ne vous raconte même pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous, vous
avez... En ruralité, etc.
En ruralité, c'est une catastrophe.
Même dans des villes moyennes. Hein.
C'est deux vies différentes par rapport à Paris, la région parisienne. Par rapport à
et là, ils sont tous en train de couler parce que tout le monde, si nous, on commande sur Amazon, sur trucs, sur, je ne vous raconte même pas comment c'est en train de mourir dans les petites villes. Et donc, du coup, on a monté ce club pour accompagner les gens et pour les former, pour qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils savent, qu'ils changent de posture et qu'ils anticipent un petit peu tout ça. Mais c'est dingue, c'est, on voit des cas, mais tellement précaires.
Tu parles de ta sœur Virginie, qui est agent, etc. C'est bien la preuve quand même que l'entourage, c'est super important en business. Et pour faire un parallèle avec les réseaux sociaux, moi je dis souvent, et c'est ce qu'on se disait aussi, Loubna, qu'un like d'un ami sur une publication, ça a son importance. Mais parce qu'on se sent tellement seul parfois quand on est entrepreneur, quand on part sur des projets qu'on ne sait pas s'ils vont être compris, que le like du pote, eh ben, ça compte beaucoup.
Ouais, mais en même temps, les likes des potes, c'est important, mais le like d'autres entrepreneurs, moi,
ça m'a beaucoup... validation.
Ouais, ça m'a beaucoup porté, parce qu'en fait, quand tu rentres dans ce monde, on sait les galères qu'on traverse. Alors bien sûr, là, on parle beaucoup parlé de galères et tout, les factures, machin, les impôts et tout. Il y a beaucoup de joie aussi, mais tu sais aussi les galères et les risques que tu prends. Et quand tu as un autre entrepreneur qui te met un like ou un commentaire, etc., tu dis ça, moi, je dis, ma soeur de galère et tout. Merci. Non, mais parce qu'en fait, on le disait tout à l'heure, tu sais, tu dois toujours, un peu comme des Américains, show up. C'est-à-dire, c'est dur, là, à la fin du mois, mais quand même, tu dois faire tes publications, tu fais tes créations de contenu, etc.
Tu as 1000 casquettes.
Voilà, t'as 1000 casquettes.
Et on te demande d'y croire.
Ouais, on te demande d'y croire. Et je sais que la personne qui me met un like, peut-être qu'elle aussi, ce mois-ci, c'est un peu compliqué pour elle et tout. Donc, tu sais, il y a une sorte de solidarité qui se dit pas et qui est hyper importante. Donc, moi, je mets les likes, je mets des commentaires.
Bien sûr.
Et c'est, mais quand je me suis lancée, ça m'a énormément aidée, quoi, d'avoir d'autres entrepreneurs qui mettaient des commentaires ou qui t'écrivent en privé, j'aime bien ce que tu fais et tout. Enfin, c'est super.
On entend deux écoles, hein. Tu sais, il y a deux écoles. Il y a une école qui te dit non mais les likes, ce qu'on appelle les vanity metrics, tout ça, tout ce qui est like, tout ce qui est algo et tout, c'est pas important, ce qui compte c'est ton travail. Sauf que vraiment, moi je suis pas d'accord, le like c'est important, c'est gratuit, déjà ça te prend quoi de scroller, de cliquer sur like, de mettre ton pouce. Je suis désolée mais les algorithmes fonctionnent comme ça. Si t'as pas juste un like par ton ami, par ton entourage, demain quand il faut mettre la main dans le porte-monnaie pour ton produit, il y aura personne finalement. Là, donc clair. Je trouve que c'est important de liker, donc likez s'il vous plaît.
Bon, bah écoute, je vais liker. Parce qu'elle va me prendre la tête.
Minima, petite question, toi, par rapport à cette. En tant que drag queen, est-ce que l'entourage a été super important? Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour faire accepter ce métier?
L'entourage est vraiment nécessaire. On subit encore beaucoup de préjugés. Moi, j'ai porté, par exemple, la flamme olympique cet été à Paris. J'étais choisi par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui m'a contacté pour me demander si je voulais porter la flamme. C'est à quoi j'ai dit, bien évidemment. S'en est subi des torrents et des torrents d'attaques. Et donc, avoir des personnes autour de toi qui t'entourent, qui te soutiennent, qui sont là pour te récupérer dans tous les moments, c'est vraiment nécessaire, important, surtout quand c'est, à nouveau, c'est moi, je me mets en avant. C'est-à-dire que je subis des attaques. Quand j'étais ingénieur et que mon boss me disait ton rapport c'est nul, j'étais genre ok bon bah c'est moi qui l'ai écrit mais c'est effectivement mon rapport qui est nul. Là on me dit c'est toi qui es nul et c'est toi qui nous mets en danger. Donc ça c'est vraiment dangereux. Et donc en plus de déranger les codes de genre, étant donné que je suis un mec qui utilise des codes féminins pour mon travail, je dérange les codes de sexualité, étant donné que je suis un mec homosexuel. Et donc quand je mélange les deux et que j'apparais en public en le revendiquant et surtout en portant la flamme olympique, là, c'est la catastrophe. Donc, avoir du monde autour de toi, que ce soit tes potes, ta famille ou même tous ceux qui sont indépendants autour de toi, que ce soit d'autres dragues ou même mes agents, c'est primordial.
C'est primordial. Et il y a, je trouve, un autre risque, c'est que les indépendants connaissent beaucoup, c'est le sentiment de solitude. Parce que si on est mal entouré...
Mais même si t'es entouré, le sentiment de solitude, tu es là.
Ça dépend par qui t'es entouré. Il faut aussi une qualité de l'entourage. Et je trouve ça important. Ce que disait Minima, c'est que quand tu t'exposes et quand tu casses les codes, moi, je me reconnais beaucoup dans ton discours, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, était un filtre naturel. Parce que tu casses les codes, parce qu'on n'a pas l'habitude de te voir ou de voir des personnes comme toi. Et donc, tu reçois de la haine en ligne tous les jours. Non seulement on remet en question toi, ta personne, donc pas ton travail. Donc, quand c'est tu fais le lien avec ton rapport d'ingénieur, c'est ton travail qu'on critique. Donc, on critique pas ton travail, on te critique toi. Donc, c'est encore pire. Et avoir cette bulle, ce que j'appelle, moi, la bulle de sérénité avec mon cercle restreint qui m'envoie du courage, qui commente, qui est là. En fait, beaucoup de positivité autour va t'aider à faire face à ça, en fait.
Et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, parce que le business nous unit. Moi,
tellement,
je dis... qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, ce qui compte, notamment sur BFM Business, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on a réussi à faire une activité qui fonctionne ?
Dès que ça a commencé, les premières années, les 10 premières années, c'était non-stop success, quoi. C'était n'importe quoi. Ça allait dans tous les sens. On ouvrait un truc, ça marchait. On faisait un truc, ça marchait. Tu t'entoures, t'as tes meilleurs amis qui ont été là depuis le début. Ça grossit. Et il y a vraiment des gens, je serai toujours là pour toi, Léniana. Et le jour où j'ai vraiment chuté, tout le monde m'a tourné le dos. C'est-à-dire que vraiment, j'ai perdu. Tu vois, ma table était pleine de gens le dimanche et tout ça. Je peux te dire qu'il est resté 5 personnes. 5 personnes, et j'ai ensuite appelé ma sœur pendant des années jusqu'à ce que je chute. Je parlais pas de mes affaires, tu vois. Je disais, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est ma sœur jumelle. En plus, nous, on est quadruplés, donc on est jumeaux, tu vois. Ouais, on est 4 jumeaux. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, viens. Elle était surprise. J'ai dit, mais si tu viens pas, je peux pas, je m'en relèverai pas. Et en fait, elle est arrivée pendant un an. Elle m'a dit, mais qu'est-ce t'as branlé? Mais qu'est-ce t'as foutu? Et je dis, mais on m'avait dit de faire ça. Mes potes, ils s'engageaient pour moi. Enfin, j'avais.
Incroyable. Mais c'est quand même, déjà, Nico, tu l'as pas caché. C'est-à-dire que tu n'en avais même pas conscience toi-même. Non. Et quand tu l'as su, tu en as parlé. Ça, c'est important aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'enferment dans une fausse réalité et qui n'assument pas le fait, finalement, d'échouer.
Ah non, mais moi, je sais que j'ai délégué. Je me suis fait avoir. J'ai peut-être été très transparent. Du coup, on quantifiait ce que je faisais, combien je gagnais, machin. Et du coup, je pense que des gens se sont servis. Et puis moi, il y avait aussi un truc, c'est que vu que les gens m'avaient soutenu pendant mon ascension, je disais toujours aux gens, allez, je paye, t'inquiète pas, tu sais, t'as toujours été là. Moi, vous avez été là pour moi, mais maintenant, je suis là pour vous. Et donc, petit à petit, tu fais fondre tout ce que t'as, tu vois. Et au final, il m'est resté 5 potes. Et je peux te dire que c'est les 5 potes. Tu vois, j'ai remonté des business et tout. Je suis désolé, j'ai les larmes qui montent parce que j'ai remonté des business, ils ont cru en moi alors que j'étais au fond du seau. J'ai ma sœur qui est là et je me suis retourné vers elle. J'ai dit, maintenant, je veux aider les gens. Je veux plus que quelqu'un vive ça. En fait, j'étais tellement sûr de moi, j'avais tout. T'as tout, t'as l'argent, la gloire, t'es connu nationalement. Tu te dis, mais c'est bon, je suis arrivé en haut. Et tu te dis pas que ça peut redescendre, tu vois. Et ça redescend vraiment. Et surtout, l'entourage. Enfin, là, tu vois, j'ai peut-être 5 potes, mais je peux te dire qu'ils cacheraient un meurtre pour moi. Ils seraient. Donc, faites attention. Mais ils sont toujours là. Ils me soutiennent. Dès que j'expose un projet et tout ça, ils sont à fond. Tu vois, on a monté ce club. C'est une histoire de famille. Nos associés, c'est Rémi, sa fille Salomé. Nous, on est frères et sœurs. Il y a l'ex-femme qui est là. Enfin, en plus, quand tu travailles en famille, il y a la même direction. Personne va essayer de se descendre et tout. Et c'est aussi se trouver une famille, parce que tu vois, ils font pas partie de notre famille vraiment, mais c'est se trouver une famille et avoir des gens qui vont te porter, tu vois. Et je trouve que c'est le plus important dans l'entrepreneuriat.
Donc, l'entrepreneuriat, ça permet de faire le tri sur son entourage un petit peu.
Ah bah, moi, c'était plutôt le contraire, c'est-à-dire que le fait que ça marche pour toi, bah, tu perds des amis. Alors, ça je m'y attendais pas à ça. Moi, je me suis dit, ça se trouve, dans l'échec, tu vas perdre des gens. Tu vois, ça, c'est presque, je veux dire, logique, mais entre guillemets. Ouais. Mais le fait que tu perds des amis parce que ça marche, ça, franchement, c'est quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Mais aussi, parce qu'il faut le dire aux gens, c'est que quand tu tentes dans l'entrepreneuriat, et tu l'as dit tout à l'heure, Luna, c'est qu'on pense tout de suite à liberté, je vais faire mes horaires quand je veux et tout. Mais non, au début, tu es là, tu commences, tu as 8 heures, tu as les yeux comme ça. Tu finis à minuit, tu as les yeux comme ça. Et en fait, toutes les petites sorties que je fais d'entre copines, machin et tout, bah oui, j'ai dû les mettre de côté. Donc, je n'étais pas disponible, clairement. On me disait, ouais, tu peux venir là et tout, tu peux venir, il y a ça. Je dis, ouais, mais là, non, je ne peux pas. Je bosse sur ma communication.
Ça, ils ne comprennent pas forcément ça avec l'entourage. Moi, je le vois, le fait de bosser tous les week-ends. Ouais. Moi, j'ai vu, année après année, le nombre d'invités à mon anniversaire diminuait drastiquement.
Ah ouais, bah.
Je faisais les totaux, là, je comparais les photos, c'est assez. On a fait divisé par 3 ou 4, quoi.
C'était pas Cédric Grolet qui a une réussite de dingue, qui avait appelé ses parents et qui avait dit papa, maman, pendant 4 ans, je n'aimerais pas vous voir. J'ai décidé de travailler et machin, je crois qu'il avait même largué sa copine. Et qui a décidé de se mettre en sous-marin, genre en mode bosseur, 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 et qui aujourd'hui a une réussite fulgurante. Il y a cette espèce de perte de vie sociale.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'en fait, tu peux pas tout faire. Si tu as une vie mondaine et que tu. Ouais. C'est impossible d'avancer vite.
Mais après, le danger, c'est que justement, bosser, ok, mais travailler intelligemment. C'est-à-dire que si tu travailles matin, midi et soir et que tu n'as plus de vie, tu n'as plus de cercle social, tu ne partages rien, est-ce que c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat ? Est-ce que tu rêvais
de ça ? Au début,
tu ne
sais pas, ça.
Alors, c'est vrai que c'est difficile et je pense que le filtre naturel, il se fait. Donc, quand les gens ne comprennent pas ta réalité, je pense que c'est important aussi de garder un pied quand même dans notre petite vie d'avant pour pouvoir justement encaisser les coups durs, changer de cadre de temps en temps. L'entrepreneuriat, c'est pas de l'entre-soi, finalement.
Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que des fois, tu as des périodes où tu te dis, oh là là, il faut que je charbonne.
Tu culpabilises même quand tu fais autre chose, en fait, en vérité.
Ah ben moi, je culpabilisais même de m'arrêter pour prendre un café. Je me disais, putain, t'as pris 15 minutes là pour t'arrêter pour prendre un café.
Oui,
c'est 15 minutes, t'as pas gagné d'argent.
Alors,
moi, j'étais en mode,
ça va pas.
15 minutes, t'as pas gagné d'argent. Tu sais que là, t'as pu gagner tant de. Non, mais c'est horrible.
comme tu disais, il faut garder un pied dans notre réalité. Tellement. Et surtout se rappeler que les personnes qui vont nous dire bah, « moi, j'ai passé 4 ans sous-marin, j'ai appelé mes parents pour dire « je viens pas vous voir » et qui sont capables de nous le raconter, c'est parce qu'ils ont réussi. Alors, pour cette personne qui a réussi, combien de dizaines, centaines ont fait exactement la même chose et se sont pété la gueule. Donc, se rappeler que les personnes qui réussissent et qui nous le racontent tous les sacrifices qu'ils ont fait, c'est pas parce que eux l'ont fait que toi tu vas pouvoir le faire aussi. C'est alors il faut le vouloir.
Mais ça fait partie aussi du jeu.
Alors c'est
je pense que pour atteindre des objectifs hauts et pour voilà pour se réaliser et réaliser sa passion etc. Je pense qu'il faut aussi savoir faire beaucoup de concessions.
C'est une condition nécessaire mais pas suffisante.
Il faut avoir une vraie discipline de travail mais ça ne doit pas cette discipline ne doit pas t'empêcher de vivre en fait parce que tu vas avoir besoin de ces moments pour décontracter pour décomplexer aussi parce que tu es dans des complexes quand tu es entre parce que à un moment donné tu te dis moi j'aimerais faire 10K, d'autres font 100K et en fait tu développes des nouveaux complexes que quand tu étais salarié tu les avais même pas, donc ça brise aussi le tabou sur l'échec, ça brise le tabou sur l'argent, tu parles beaucoup plus facilement d'argent et ça te permet justement de souffler, tu te dis ok je ne suis pas seule et c'est ça aussi je pense la première barrière à la solitude, c'est d'aller en parler même de tes échecs.
Vous fréquentez beaucoup d'autres entrepreneurs?
De plus en plus
bizarrement depuis ce qui m'est arrivé, moi je sais que j'ai commencé à regarder autour de moi où il y en avait. Avant, je traînais avec tous mes vieux potes, machin, mais il n'y en avait pas un qui avait entrepris. Donc, en fait...
Comme quoi, l'écosystème est super important et super inspirant. Et d'ailleurs, c'est prouvé, on dit que la moyenne des 5, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Si tu fréquentes un entrepreneur, etc., tu vois tout de suite qu'il y a une dynamique qui se crée. D'ailleurs, les couples d'entrepreneurs, généralement, sont très successful parce qu'ils sont dans une dynamique commune.
Pour s'aider aussi, moi, je m'entoure que d'entrepreneurs parce que toutes mes copines avec qui je bosse, tous les dragues...
C'est du business.
Plus que c'est forcément du business, c'est que tu es obligé de te vendre pour travailler, vu que c'est un milieu qui n'existe pas. Par exemple, quand tu t'enregistres à l'URSSAF, t'as pas de code APE drag queen. Ça n'existe pas. Même travesti ou transformiste, tout ça, même artiste de cabaret, c'est peu référencé.
C'est dingue. Donc ça n'existe pas. C'est...
Donc tu rentres dans une catégorie d'artiste. Genre,
donc maintenant, je suis gérant de ma propre société. D'accord. Mais quand j'étais auto-entrepreneur, mon code APE, c'était conférencier du spectacle vivant. Parce que c'était le truc le plus proche que je pouvais trouver. Voilà, c'est ça. Donc en fait, t'es vraiment obligé de te réinventer. T'en as certaines qui vont devenir intermittentes, t'en as d'autres qui vont monter des assos, d'autres qui vont monter des trucs dans le théâtre pour pouvoir se faire des cachets. Moi, j'ai décidé de monter ma société. T'es obligé de t'entraîner là-dedans et de te serrer les coudes pour te dire ok, en fait, on va s'en sortir. Mais bon, bien évidemment, la moitié ne s'en sortent pas parce que c'est un mindset d'être indépendant.
C'est un mindset et c'est beaucoup de travail. Il y a un débat qui est en train d'émerger. Je pense que ça va être une tendance en 2026. C'est le slowpreneuriat. Est-ce que ça vous parle?
Absolument pas.
Tellement, ça me parle beaucoup.
Le slowpreneuriat est en train de percer. Et donc, l'idée, c'est de dire ok, on arrête de dire que l'entrepreneuriat, c'est une question de mindset où on peut se donner à 200%, etc. Et on se recentre sur sa zone de confort et on pense plus à sa vie personnel. C'est de dire, en fait, l'entrepreneuriat ne doit pas être un dépassement de soi, nécessairement.
Alors, moi, ça confond l'entrepreneuriat, je ne les mets pas ensemble.
Ouais, non.
Je sais pas qui a dit ça. Il y a vraiment une tendance qui est en train... Il y a Laure Daunier, que je cite, qui a écrit le livre « Reste dans ta zone de confort » ou « Zone de confort », c'est plus le titre.
Non, c'est pas « Zone de confort ». Je sais pas si c'est... Peut-être c'est... Moi, ce mot, je le trouve fort. Moi, je dirais qu'il faut... Il ne faut pas forcément se disperser dans tous les sens. Il faut rester sur les choses qui nous passionnent, qui nous animent. Je vous le dis parce que j'ai fait plein de trucs différents, machin, et que je me suis bien cassé la gueule. Mais il faut rester sur ce qu'on aime et tout. En revanche, le dépassement de soi, il est là au quotidien. Parce qu'en fait, on est toujours... Enfin, forcément, si tu fais évoluer ta boîte, tu es toujours en train de reprendre un autre risque, d'avoir d'autres compétences, de machin, de t'entourer différemment.
Tu es obligé de te dépasser, quoi.
Tu es obligé de te dépasser tout le temps. En revanche, te disperser... Si c'est ça l'histoire de la zone de confort. Mais moi, pour moi, zone de confort, c'est quand tu te mets plan-plan et que tu t'assois et que tu fais bon, on reste là-dedans.
Alors, pour moi, tu vois, la zone de confort, je dirais même pas zone de confort, c'est zone de génie. Ça veut dire que.
Oui, c'est
ça, c'est la zone de. Là où je suis excellente, je reste dans ce que. Là où je suis excellente et je délègue, quand je peux, je délègue les opérations, la gestion, les choses que je ne gère pas et que j'ai pas envie de gérer pour justement travailler intelligemment. En fait, c'est ça, pour moi, le slowpreneuriat, c'est quoi? C'est travailler. Donc, tu vas donner 20%, c'est ces 20% qui vont te faire tes 80%. Donc, il faut juste.
C'est de la délégation, quoi.
Alors, ça peut être de la délégation, mais ça peut être changer ta manière de faire, changer ta manière de communiquer, changer comment tu marketes ton produit. Donc, ça va vraiment dépendre de ton business. Mais pour moi, s'acharner au quotidien, pour moi, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Tu te tues à la tâche, finalement, comme si tu étais salarié, en fait.
Il y a un peu, alors il y a de la délégation, je pense, dans cette idée, mais il y a aussi l'idée de dire, ok, contentez-vous d'une activité qui vous fait vivre, mais vous n'êtes pas obligé de viser la lune et de travailler 7 jours sur 7 et de trouver constamment toujours plus de clients, parce qu'on est dans une société qui te pousse en fait à la compétition, à la productivité.
Joël. Non, mais parce que en fait, ça dépend. Si tu es en mode profession libérale, je sais pas, moi, quand tu es médecin et tout, tu as une activité qui te fait vivre et c'est très bien. Tu n'es pas en train de te dire, ouais, il faut que j'ouvre 3 cabinets. Enfin, tu as des médecins qui sont comme ça,
tu
mais
peux,
en général, tu as ton cabinet, ça tourne, tu es bon, tu es content. Mais comme il l'a dit très bien Nicolas, la plupart des entrepreneurs, ils ont un rêve. Moi, mon rêve, c'était de créer des emplois. C'est bête, mais j'ai une histoire personnelle qui est assez compliquée. Avec mon père, il a perdu son emploi, on a perdu notre maison, on s'est retrouvé à la rue. Et en fait, le travail, pour moi, c'est tellement important. Je me dis, mais en fait, quand tu as un travail, tu retrouves ta dignité, ta vie, elle repart et tout. Et je me suis dit, moi, ma façon de contribuer à la société, c'était de créer des emplois. Et donc, tant que tu n'arrives pas à ça, moi, je suis comme, non, je n'ai pas créé d'emploi, c'est que ça ne tourne pas encore assez bien. Et tu vois, quand j'ai, entre guillemets, embauché mon premier freelance, parce que je n'ai pas créé d'emploi, mais je travaille avec des freelances qui travaillent pour moi.
C'est de l'emploi, hein.
Ouais, j'étais comme, waouh, j'ai un freelance, waouh, j'ai une assistante, je la paye tous les mois, etc. Waouh, j'ai quelqu'un qui fait mon digital.
Et du coup, tu l'as délégué, finalement,
ouais, exactement,
tu vois.
Voilà. Exactement, donc ça te demande de te développer. Si moi, mon rêve, c'est de créer des emplois, bah, je ne peux pas rester juste en me disant, bah, c'est bon, je gagne ma vie, c'est tranquille, machin. Donc en fait, ça dépend du rêve que tu as à la base quand même.
Mais je pense que tu peux poursuivre tes rêves. Moi aussi, j'ai un rêve d'embaucher, d'être l'employeur que je n'ai pas eu.
Sans travailler 7 jours sur 7.
Exactement. C'est qu'en plus, quand tu as une vie de famille, parce que je suis maman, j'ai 2 enfants, donc je travaille uniquement 5 heures par jour, pas plus, parce que je ne peux pas faire plus. Et j'ai compris que je peux travailler intelligemment et gagner
ça,
même
c'est vrai.
Plus qu'avant.
Ça, c'est vrai.
Et je pense que c'est juste une question de mindset, de se dire, je ne dois absolument pas me tuer à la tâche. Exactement. Trouvons la meilleure
Surtout
manière.
Surtout que ce n'est pas rentable, quoi.
Mais tellement pas, parce que tu tues la santé. Finalement, on parle de burn-out, harcèlement au travail quand tu es salarié, mais quand tu es entrepreneur, tu es ton propre esclave des fois. Donc,
plus quand tu es entrepreneur, tu peux être très mauvais quand tu es fatigué et rinté.
Tu
peux être même mauvais
parce que tu n'es pas bon, tu te mets à parler mal.
Tu n'es pas rentable, tu dois prendre soin de ta santé.
Et puis, j'ai l'impression qu'on n'a rien, enfin, on invente des choses et c'est bien ce qu'on fait, mais tout ce que l'on souhaite faire, ça c'est déjà fait par d'autres personnes. Donc allons chercher aussi, comme tu le dis, genre travaillons intelligemment 5 heures par jour, c'est très bien parce que le reste du temps, il y a d'autres personnes qui le feront mieux que toi.
Absolument.
Et si tu peux pas déléguer, au moins tu peux apprendre, essayer d'apprendre de ces personnes. Il y a de plus en plus de ressources quand même, que ce soit sur les réseaux, pour essayer d'apprendre, de comprendre. Et si tu sais que t'es pas bon sur quelque chose, mais que t'as pas le choix, que tu dois le faire, bah tant pis, tu vas le faire, mais tu sais que ça va pas être ton cœur, ta zone de génie.
T'enfermes pas dans des tâches qui te correspondent pas et t'auras forcément la compétence disponible quelque
bien
part.
Sûr.
Quoi. Bah, c'est ça,
bien
c'est sûr. Ça. Enfin, en fait, les compétences sont déjà là. Ne réinventons pas la roue.
Et puis, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et il ne faut pas être dans la course à l'excès. Il y a de la place pour tout le monde. Si je réussis, d'autres ont réussi. Et il faut se le dire comme ça, je pense.
Et puis, rester vraiment axé sur sa zone de génie. Quand tu t'arrives à te dire, elle est là, ma zone de génie, c'est ça.
Ça, c'est...
C'est le bonheur. Mais tu vois,
tu la trouves, t'es aux anges.
Ça arrivait il y a un an, la zone de génie, je ne savais pas. Je faisais plein de trucs, la télé, du machin, du bidule. J'étais là, mais je suis
bloqué. Ça marchait dans tous les sens. Et ça, c'est un risque. Quand on entreprend, souvent, on va vouloir faire beaucoup d'activités, beaucoup de choses, beaucoup de projets.
Non, mais tu dis oui à tout, parce que pour ce que nous, ça représentait l'entrepreneuriat, on voyait des gens successful qui s'attaquaient à, tu vois, des actrices qui faisaient des produits beauté, qui faisaient des machins. On a eu ces modèles-là, tu vois, des gens qui allaient dans tous les sens. Mais c'est pas des gens qui vont dans tous les sens. C'est des gens qui te font croire. Mais en fait, ils ont géré leur image et tout ça. Mais il y a plein de gens qui travaillent et qui font leur truc et tout, machin.
Il y a des gens derrière.
Ils ont un manager, un machin, une nana, une chef de produit, une machin. Et du coup, forcément, t'as l'impression qu'ils se lancent dans tout. Mais ils se lancent pas dans tout. Ils sont bons dans quelque chose. Et quand t'as réussi à le découvrir, ta zone de génie, tu t'entoures des gens qui vont te mettre en valeur ou qui vont t'aider pour les autres choses. Mais c'est vrai que, il faut le découvrir. Il faut savoir. Je pense que le vrai entrepreneur, il faut qu'il se connaisse.
Ah, complètement.
Quand tu te lances dans tout, que tu dis tu veux juste impressionner, c'est pas la bonne manière.
C'est une claque psychologique, hein. Tu découvres des facettes de toi que tu n'avais jamais vues.
Donc, tu as des choses effectivement qui font.
Il y a des traumas qui surgissent, oui.
C'est vrai, hein, c'est vrai.
C'est vrai.
En fait, ça révèle beaucoup de traumas parce que tu vois, tu te lances et puis après, quand tu découvres qu'en fait, tu t'es attaché à l'image, à ce que tu renvoyais, machin, et souvent, c'est, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on disait, en fait, si on est dans la lumière, c'est quand même qu'il y a eu quelque chose. Tu vois, on se dit toujours un petit peu ça, tu vois. Tu veux briller au départ, tu veux satisfaire un peu tout le monde, puis après, tes parents ils te disent, ah, c'est bien, tu devrais faire ça, tu devrais signer ça. Et en fait, petit à petit, t'écoutes plein de monde et au final, tu perds un peu ta route, quoi.
J'espère que ceux qui nous écoutent apprécient autant cette discussion que moi. Franchement, je trouve ça assez génial. Et il nous reste une minute pour le dernier épisode de la saison 3 du podcast des Indépendants.
Ah,
je vais me mettre à pleurer. Une minute pour... pour dire un dernier mot à nos auditeurs sur peut-être qu'est-ce que c'est être indépendant, qu'est-ce que c'est entreprendre, ce que vous voulez en fait. Hein.
Bah, qu'est-ce qu'on peut souhaiter que le plus de gens se lancent ?
Pour moi, ce qui est être indépendant, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Parce que, tu vois, clairement, là, je fais du coaching, ça fait 5 ans, mais moi, je ne m'interdis pas de faire quelque chose d'autre après. Et c'est de se dire que je grandis, je me connais mieux et je m'autorise à pivoter. Tu vois, il y a une sorte de case, quand tu es sorti du salariat, il y a un truc qui a sauté, un truc de. Tu vois,
un carcan
ouais, ouais. qui a sauté et qui dit, mais en fait, je peux faire ce que je veux. Et le temps. Que je veux. Et ça, il n'y a que moi qui peux le décider et pas quelqu'un qui va dire « Ouais, mais attends, là, tu faisais du coaching, après, tu fais un autre truc et tout. » Non, moi, si dans 6 ans ou même dans 1 an, je me dis « Je veux faire autre chose », j'ai fait autre chose. Donc, pour moi, être indépendant, c'est vraiment avoir cette liberté, mais pour soi.
C'est le champ des possibles. Et plus tu te connais, plus tu te découvres et plus tu vas aller dans la direction qui te correspond. Ouais, et tu te rends compte que la vie est bourrée d'options.
Complètement.
Et quand tu es salarié, c'est vrai que tu es bloqué. Enfin, tu es dans un couloir. Ouais. Bon, et très souvent, tu te mets des œillères. Minima.
Pour moi, être indépendant, c'est regarder autour de soi. Récupérer le meilleur pour pouvoir tirer le meilleur de soi-même et payer son loyer.
Je crois qu'on va lancer une cagnotte au minimum parce que on sent qu'il y a un sujet stressant. On va peut-être lancer une cagnotte du coup minima. Lumna.
Pour moi, être indépendant, c'est avant tout être passionné. Et je pense que c'est important de se dire que laissez-vous l'occasion d'être passionné. Brisez les codes, n'écoutez pas ceux qui vont vous mettre des bâtons dans les roues parce que justement, vous avez votre place et que c'est grâce à votre entrepreneuriat que vous allez changer les choses. Donc, ayez cette passion, faites, brisez les codes et puis il y aura des échecs. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus, hein, en vrai.
Et les échecs, c'est formateur, n'est-ce pas, Nicolas ?
Bien sûr.
Oui, c'est formateur. Bon, des fois, ça fait mal, mais c'est formateur. Mais pour moi, se lancer, c'est effectivement sauter à l'élastique sans élastique. Mais c'est réaliser son rêve, c'est essayer de changer le monde. Je pense qu'on est tous autour de cette table pour changer le monde. C'est un rêve, il faut le faire. Si on a envie de le faire, si on sent qu'on doit le faire, il faut le faire. Mais comme il y a des gens qui s'épanouissent très bien dans le salariat et dans le.
Aussi.
Et qui sont très heureux.
Ça y est, quand même 50% des salariés en France, je pense 46% qui déclarent que leur travail manque de sens. Hein.
Bah oui, mais quand tu suis la politique de quelqu'un, de toute façon, ça n'est pas la tienne.
Ouais.
Donc, c'est aussi ça, être indépendant, c'est inculquer sa politique, faire ses choix soi-même.
Mais je pense que le futur du travail, c'est un coup, je suis entrepreneur, un coup, je suis salarié, ouais. Et c'est comme ça. Et c'est, ouais. Pas,
c'est slasher, je crois.
Et c'est OK, ouais. En fait, c'est OK. Ouais. Mais c'est OK de se dire que ne faisons pas l'éloge de l'entrepreneuriat à tous les coups, ouais. Parce que ça peut se passer très mal, ouais. Mais on peut aussi très bien s'épanouir en tant que salarié.
Je crois qu'on a été plutôt équilibré sur ce qu'est l'entrepreneuriat durant l'émission. Il y a aussi des galères, ça implique beaucoup de choses.
Bien sûr, bien sûr.
Mais preuve que c'est possible, puisque vous étiez salarié, vous avez franchi le pas et vous êtes super heureux malgré les difficultés, malgré les cotisations, malgré les taxes, etc.
Malgré les loyers à payer.
C'est ça.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce dernier épisode de la saison 3 sur BFM Business. Très bel été à tous. Si tout va bien, on se retrouve en décembre après cette 3e saison qui a fait des scores d'audience vraiment impressionnants si on compare à la saison 1 et à la saison 2. J'espère qu'on se retrouvera donc pour la saison 4. Je vous dis à bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.